bonsoir à tous. C'est Kabadou avec vous en direct de la Voix de l'Amérique. Vous écoutez votre émission interactive À votre avis. Nous parlons aujourd'hui du cas du Niger. Le pays est sous le choc après l'attaque terroriste contre le poste militaire d'Inates dans l'ouest du pays mardi soir, près de la frontière avec le Mali. Au moins 71 militaires ont été tués, 12 autres blessés, de nombreux sont portés disparus. C'est l'attaque la plus meurtrière contre les forces armées au Niger. Les États du Sahel peuvent-ils faire face à ce fléau? Quelle autre manière, comment faire pour faire face au terrorisme? C'est notre sujet de discussion aujourd'hui. Alors vous avez la possibilité de nous appeler et vous avez également la possibilité de laisser votre numéro, vos contacts via notre page Facebook VOA Afrique. C'est ce qu'a fait notre premier auditeur qui s'appelle Baba Biaou Adimi. Il est au Bénin. Bonsoir.
Comme la journaliste.
Alors, vous avez écrit sur la page Facebook que pour vous, il y avait une possibilité de faire face à ce fléau en changeant de stratégie. Que voulez-vous dire?
Bien sûr, il y a une possibilité de pouvoir lutter contre ce terrorisme perpétré ici, en Afrique, surtout dans le Sahel. Vous voyez, il y a cela des années, la France s'est engagée du côté du G5 Sahel pour pouvoir combattre le terrorisme. C'est-à-dire, et cela sans succès, malgré les engins lourdement, c'est-à-dire mis à la disposition du G5 Sahel. Et cela se fait toujours sans succès. Vous voyez, cela a commencé par éveiller l'attention du peuple africain, pratiquement ceux du G5 Sahel. Et si nous voulons plus centrer le sujet, quand on fait un peu allusion au fameux adage de Michel Sapin, ancien ministre de l'économie de la France, qui disait « Ne touchez surtout pas au franc CFA, sinon vous serez frappé par le terrorisme ». Je pense que c'est cela.
Donc vous pensez qu'il y a un lien, c'est cela ?
Que j'ai aujourd'hui l'Afrique.
Donc vous pensez que le franc CFA est le lien avec ce problème ?
Oui, bien sûr, vous savez... C'est-à-dire pourquoi les Français ne vont pas porter garant sur l'argent des Chinois? Pourquoi les Français ne vont pas porter garant sur l'argent des Russes? Et c'est chez nous en Afrique que cela se passe.
Ben, en fait, ce que vous dites peut tenir, c'est votre opinion, hein. C'est une émission, on donne son opinion, mais la France a pu agir en Libye, hein, pays dont on sait qu'il y a quelques années, le général Kadhafi voulait avoir une autre monnaie par rapport au franc CFA, et la France a quand même agi pour arrêter des terroristes. Donc je ne sais pas si c'est la réponse, en tout cas vous avez donné votre opinion, et on vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission. Un autre auditeur souhaite donner son avis, il est à Dakar au Sénégal, il s'agit d'Aruna Baldé. Bonsoir.
Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Alors on a eu un auditeur avant vous qui a parlé de changer de stratégie. Vous, à quoi vous pensez pour pouvoir sortir de ce genre d'attaque vraiment meurtrière?
Bon, d'abord, je m'incline devant les mémoires des victimes. Je pense qu'il faut aller au-delà d'abord de ça. Avant de parler de changer de stratégie, je pense aujourd'hui, la question du terrorisme ne peut pas être réglée par vraiment, je pense, un groupe de 5 pays ou le G5 Sahel. Je pense aujourd'hui, il faut aller au-delà du G5 Sahel, c'est-à-dire que tous les pays africains se réunissent autour d'un idéal commun, c'est-à-dire combattre l'ennemi commun en quelque sorte. S'il le faut, moi d'abord, s'il le faut d'appeler la communauté internationale, comme on a eu à le faire dans certains pays, dans le Moyen-Orient en quelque sorte, pour vraiment lutter contre le terrorisme. Parce que ça, c'est tout un réseau vraiment que 5 pays ne peuvent pas régler en quelque sorte. Je pense qu'il faudra vraiment s'asseoir et discuter des questions préalables. S'il le faut, appeler l'ONU pour vraiment intervenir par rapport à cela. Parce que récemment, je magnifie vraiment le déploiement de l'armée américaine de certains chars de combat au Niger. Je pense qu'avec cette force, d'autres forces, je pense qu'on pourra régler ce problème de terrorisme. Mais bon, Barkhane ou bien G5 Sahel, moi je ne pense pas qu'ils sont en mesure de régler ce problème. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à opérer dans cette zone-là. La situation s'amplifie davantage de jour en jour. Et moi, je ne pense pas aussi que c'est lié par rapport aux Français. Parce que c'est juste que bon, l'ennemi est là, bon, il est parmi nous. Il faudra vraiment davantage que les renseignements soient renforcés dans la sous-région, qu'un peu partout dans les frontières. Parce que ça ne concerne pas qu'un seul pays. Il faut qu'il y ait vraiment des renseignements un peu partout dans l'Afrique et qu'il y ait vraiment l'union, la force pour lutter contre le terrorisme. Mais quand on laisse ça avec le G5 Sahel, bon, à beau vraiment faire des moyens ou des moyens logistiques ou des moyens financiers, on ne parviendra pas à lutter contre, efficacement contre le terrorisme. Parce qu'il faut vraiment l'intervention de la communauté internationale en quelque sorte.
Merci beaucoup Haruna Baldé. Avant que nous donnions la parole à Moumouni en ligne, un commentaire sur la page Facebook, celui de Kone Moussa. Le G5 Sahel a cette possibilité de faire face et d'éradiquer ce fléau dans le Sahel, mais c'est une question de volonté. Il faut savoir qu'il y a deux aspects. Le premier, il suffit de coordonner les opérations avec les frontières des pays voisins, ce qui implique la création d'un centre de commandement des opérations avec une logistique adaptée à la situation. Et je pense aussi, en second lieu, que chaque État peut mobiliser 1000 soldats, des blindés légers, des pick-up, des armes et même les moyens financiers pour éradiquer ce fléau. Qu'en pense notre prochain auditeur ? Bonsoir Moumouni.
Oui,
oui. Bonsoir, vous allez bien ?
Allô.
Bonsoir.
Oui, très bien.
Alors, quel est votre regard
sur...
Bonsoir. Quel est votre regard sur la situation au Niger ?
D'abord, il faut qu'on change de stratégie.
Alors, changer de stratégie, on vous entend mal. On va vous reprendre dans quelques instants. Nous avons un autre auditeur qui est au Mali, Samba Traoré. Bonsoir.
Bonsoir.
Quelle est, selon vous, la meilleure solution pour faire face au terrorisme ?
Bon, pour moi, la meilleure solution, c'est toujours compter sur l'aide extérieure, l'aide des puissances étrangères. Parce que quand on regarde la situation, la façon dont nos camps, nos bases sont attaquées, ça montre toujours que nous sommes en état de faiblesse.
Alors, c'est intéressant oui. d'entendre ça de votre part, parce que vous êtes au Mali. On sait que
oui.
une forte partie de la population s'est mobilisée hein, pour se plaindre de la présence de la force Barkhane et même de la MINUSMA. Qu'est-ce que ça représente pour vous des faiblesses, des failles au niveau des armées ? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites cela ?
Je veux dire que concernant la Barkhane même, sa présence ici, le fait que la population montre son mécontentement n'est pas une surprise. Parce que quand on regarde à chaque fois que les bases et les camps sont attaqués, l'arrivée et le départ des attaquants ne sont jamais signalés. Vous voyez ? Donc c'est pour cela que la population est remontée contre la MINUSMA et le Barkhane. Mais la population n'a pas bien compris, parce que la population doit comprendre le mandat de la MINUSMA ici. C'est ce qui pose problème un peu chez nous ici. La population n'a pas bien compris le mandat de la MINUSMA. Mais en ce qui concerne le mandat de Barkhane, ça doit être compris, parce qu'on ne peut pas comprendre que nos bases, nos camps sont attaqués avec les moyens techniques aériens logistiques de Barkhane chaque fois. Nos armées sont tuées, armement emporté. Donc à chaque fois, ce sont les camps qui sont attaqués. L'attaque ne se fait pas lors des patrouilles. Chaque fois, les camps sont attaqués, soit nuitamment, soit la veille. Donc on ne peut pas lutter ce fléau-là comme ça tant qu'on n'a pas la main tendue avec les puissances extérieures pour nous aider à mettre fin à ça.
Alors vous dites alors les puissances extérieures peuvent aider lesquelles ? La France, les États-Unis, on sait que la Russie et même maintenant une force d'Europe de l'Est va également venir par exemple au Mali. Parce que là par exemple on a pas mal d'auditeurs qui écrivent sur la page que la France est responsable. C'est le cas de Youssouf Ousmane en Côte d'Ivoire. Nous accusons la France d'être responsable. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à des auditeurs qui pensent ce genre de choses ?
Oui, quand on dit que la France est responsable, c'est ce que je viens de dire. On ne peut pas comprendre que la Barkhane est présente chez nous ici et que chaque fois on est attaqué et chaque fois on n'attend pas du tout l'intervention de la Barkhane.
Elle est présente également au Niger, tout comme les États-Unis. Donc comment l'expliquer par exemple ? Comment expliquer cette attaque ?
Oui.
Comment expliquer l'attaque du Niger ?
Depuis fort longtemps, les États-Unis n'ont pas bien mis dans leur programme la lutte anti-terroriste dans le secteur où maintenant les combats sont lourds. Les États-Unis restent à donner des matériels comme ils viennent de faire avec le Niger. Non, mais venir faire une présence visible avec l'aide au ministère malien burkinabé, les États-Unis se retiennent de faire ça. Donc, ils sont un peu accusés aussi. Mais on ne doit pas se limiter à les accuser. On doit tendre nos mains à eux. Parce que c'est eux qui peuvent nous aider avec les armements lourds. On ne peut pas faire face à ces terroristes-là, étant donné qu'ils sont bien armés, ils sont bien équipés, et ils ont une tactique très très forte pour attaquer nos camps. Donc, si on essaie de tirer nos mains aux puissances étrangères, ça va rendre difficile encore la situation.
Alors, on a un auditeur, j'aimerais que vous puissiez réagir à son commentaire, qui s'appelle Talino Bra. Il dit il faut que notre armée soit mieux entraînée, mieux équipée et commandée efficacement pour faire face à la menace. Quand on demande à l'extérieur de venir nous aider, c'est que nous sommes nous-mêmes vulnérables et menacés, et cela est inconcevable 60 ans après l'indépendance de nos pays. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ce commentaire ?
Oui, ce que je peux dire à son commentaire, je peux dire aussi qu'on a dans ce manque aussi. Et puis, quand on est indépendant, mais nos armées ne sont pas bien équipées. Mais on peut dire que la situation en Libye a fait qu'on est venu, on s'est rendu compte que nos armées ne sont pas équipées. En 2010, lors de la 50e de l'indépendance du Mali, on a montré aux gens que l'armée malienne est bien équipée. Deux ans après 2010, tout près, on a vu que l'armée malienne n'avait rien. Donc, il n'a pas menti, on n'est pas bien équipé, on doit être bien équipé, bien s'entraîner pour faire face à la situation. Avant, ce que les armées combattaient était différent de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, l'armée doit être au top pour faire face avec l'aide des puissances étrangères.
Alors, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous attendez beaucoup de la rencontre de Pau en France avec les chefs des pays du G5 Sahel, avec la collaboration avec la France qui va être rediscutée, redéfinie?
Oui, j'attends beaucoup de ça, parce que la rencontre de Pau doit être une rencontre qui va pousser nos chefs d'État à dire à Emmanuel Macron que la France ne doit pas être présente chez nous ici pour rien. On ne peut pas comprendre que la France est chez nous, donc que tous les jours on est tué. Donc l'opération Barkhane qui est présente chez nous doit accentuer son aide à nos militaires.
Merci.
Donc nos chefs d'État doivent montrer ça à Emmanuel Macron.
Merci Samba Traoré d'avoir apporté votre contribution. On vous souhaite une excellente soirée. On va aller du côté de Conakry avec notre auditeur Diallo Tchernou Oumar. Bonsoir.
Merci, madame. Allô?
Oui,
bonsoir à l'ensemble des amis auditeurs de VOA Afrique.
Alors, on a envie d'écouter votre avis concernant la situation au Niger et face au terrorisme plus largement.
Oui, bon, à mon avis, la situation est devenue vraiment très inquiétante. Je présente, avant de commencer, mes sincères condoléances aux peuples nigériens. Vu ce qui se passe dans les zones, dans les pays sahéliens, c'est devenu vraiment très inquiétant parce que ce sont nos forces et défenses de sécurité qui tombent. C'est quelque chose vraiment qui est très, très regrettable. Au début de la crise, c'était les civils qui tombaient, mais maintenant, ce sont les militaires qui tombent en dizaines. C'est quelque chose qui est vraiment inquiétant. Vu tout ça là, moi, je pense que les États sahéliens sont vraiment échoués. Il faut qu'on change la stratégie de la lutte contre le terrorisme. Moi, je pense que tous les leaders, tous les chefs de groupe terroristes, que ce soit les dirigeants d'ACMI, d'Amadou Koufa, ils sont tous d'origine ou bien des citoyens du Sahel. Il faut qu'on les appelle, il faut qu'on essaye de parler avec eux pour mettre fin à cette barbarie qui n'honore pas l'Afrique entière. Parce qu'on ne voit pas l'objectif du terrorisme. Ça n'a pas de sens. Lorsque les rébellions menaient leur lutte, tout le monde comprenait, vous savez pourquoi ils se menaient la lutte, c'était pour obtenir le pouvoir. Mais le terrorisme, ce n'est pas le cas. C'est juste pour endeuiller des familles et de récupérer des terres qui ont été conquises. Donc, ce n'est pas quelque chose, à mon avis, qui est normal. Il faut s'approcher d'eux. Il faut parler avec l'ensemble des fils qui sont au sein des groupes terroristes, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina, en Algérie, en Libye, partout. Il faut les rassembler, il faut les parler, il faut essayer de comprendre avec eux pour sauver les citoyens. Les soldats sont maintenant vraiment dans l'insécurité totale parce que les terroristes sont pris ok, sont pris armés, déterminés, que donc c'est quelque chose qui est vraiment très inquiétant. Il faut que la CDAO bouge à nouveau, parce que c'est toute la région qui est menacée. C'est la région de l'Afrique centrale, c'est toute l'Afrique entière qui est vraiment menacée. C'est le seul, les citoyens du monde. Personne n'est épargné du terrorisme. Donc il faut que la stratégie de la lutte contre le terrorisme change. Il faut aller à des négociations. Il faut aller à des pourparlers, comme nous avons fait avec les séparatistes, comme nous avons toujours fait avec pour libérer les otages qui ont été pris par ces terroristes. Donc, ce n'est pas interdit d'essayer de rentrer en contact avec les Mokhtar, Belmokhtar, avec tous les leaders qui sont là aujourd'hui en train de faire ce crime, pour parler avec eux, pour sauver les citoyens du zone du Sahel. Parce que les États tremblent, c'est quelque chose qui est vraiment très inquiétant. On n'arrive pas vraiment à faire face à l'insurrection des extrémistes radicaux. Vraiment,
merci,
c'est quelque
beaucoup.
Chose qui est vraiment très dommage. Il faut que les Allah arrêtent, il faut qu'ils arrêtent le pied des innocents. Ce n'est pas au nom de l'islam, ils ne sont pas des vrais croyants, parce qu'ils sont un bon croyant.
Merci beaucoup d'avoir donné votre avis, Diallo Tierno Oumar. Nous avons réussi à récupérer Moumouni. Vous êtes dans quelle ville? Vous êtes au Niger? Bonsoir.
Oui, bonsoir. Comment vous allez, la VOA?
On va bien, même si c'est vrai que ce chiffre est vraiment, vraiment très, 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 très inquiétant et triste pour de nombreuses familles au Niger.
Oui.
Vous êtes au Niger, oui. Vous-même?
Oui, je suis au Niger.
Comment avez-vous
à Niamey,
de la capitale, comment avez-vous vécu et
vraiment cette... actuellement nous sommes endeuillés et vraiment il faudra qu'on change de mentalité et surtout nos dirigeants, il faut qu'ils prennent leur décision en main, la décision de leur peuple en main, car vraiment trop c'est trop. Parce que ces terroristes-là, il y a des mains invisibles qui sont en train de les aider, qui vraiment on comprend rien. Je peux pas comprendre là où on dit dans un pays où il y a des forces étrangères avec des drones et avec toutes les moyens nécessaires pour soutenir tous ces attaques, pour vraiment empêcher toutes ces attaques. Nous sommes vraiment. Mais pourquoi ces forces dans ce pays? À savoir la France, les Américains, et je ne sais pas qui, ils sont nombreux qui sont dans le pays. Mais avec
et vous ça, pensez qu'il y a eu une faille? Comment expliquer justement qu'avec un tel équipement, il y ait pu avoir autant de personnes qui ont pu pilonner à distance ce camp? Comment vous l'expliquez?
Non, ces gens-là sont plus lourdement armés que nos armées. Et du coup, on ne peut pas... vraiment, je ne sais même pas comment vous expliquer. On a tellement mal. Ils ont tué nos frères, nos fils, nos pères. Et ça fait vraiment mal. Et vraiment, on doit prendre notre situation en main. Et il faut que ces forces-là quittent nos pays. Ils n'ont qu'à partir. On va gérer. Nos dirigeants doivent prendre leurs responsabilités. Avant l'arrivée de ces forces-là, ici au Niger, on n'a jamais vu où on a tué jusqu'à 71 militaires. Ça, c'est impossible, c'est jamais entendu.
Alors, selon vous, les mains invisibles seraient de qui et pourquoi ces mains invisibles collaboreraient avec les terroristes?
Non, c'est parce qu'ils ont des intérêts sur nos territoires, sur nos pays, et qu'ils ne veulent pas perdre. Voilà la raison. Tout le monde le sait, on ne peut pas parler. Ils ont des intérêts, ils ont des intérêts sur nos pays. Et si vous faites la part des choses, les pays francophones sont toujours les derniers de la planète. Tous
alors
les pays
qui ont été
colonisés par la France sont derniers du planète.
Alors...
Nous sommes riches en ressources, mais on ne profite pas de ça.
Dans ce cas-là, au vu de ce que vous dites, quand vous dites que les pays doivent se mettre ensemble, discuter, trouver des solutions, la rencontre de Pau début janvier, vous en espérez quelque chose entre les chefs d'État?
Non, on n'espère rien. Et d'abord, nous, on trouve ça comme si c'est une convocation de la part de nos chefs d'État. comment se fait-il qu'un chef d'État français va rester dans son pays, convoquer nos dirigeants pour dire qu'il faut qu'on voit si la Barkhane va rester. La Barkhane n'a qu'à plier bagage et partir, on n'a pas besoin de la Barkhane. Avant la Barkhane, nous connaissons la rébellion ici au Niger, mais on a pu, l'armée nigérienne a pu faire face à cette rébellion et puis et c'est fini. Aujourd'hui, nous avons Boko Haram de ce côté, vers Difa. Nous avons vers de Tilia jusqu'à jusqu'à Tilaberi. Nous avons vraiment, nous avons tellement de problèmes. Je n'ai même pas les mots à dire.
Le pays est effectivement enclavé et les passages viennent de tous côtés, effectivement. Vous pouvez rester avec nous en ligne, Moumouni. Un auditeur souhaite également apporter sa contribution. Il est au Togo. Il s'agit d'Asmaïlou. Bonsoir. Asmaïlou, bonsoir. Vous avez pu entendre un auditeur nigérien très en colère. Est-ce que vous partagez son avis ?
Pardon, je vous écoute très mal, la ligne est très floue. Hein.
Alors Ismaïlou, vous êtes en direct pour l'émission. À votre avis, concernant la situation au Niger, quel est votre ressenti?
Excusez-moi, je ne vous comprends pas bien, c'est très flou. Mais ce que, si vous m'en comprenez, je vais essayer de donner mes propos un peu. C'est qu'aujourd'hui, qu'on sache que derrière ces attaques-là, il y a les mains noires. D'abord, moi, à mon niveau, moi, j'appuie souvent ces communautés ou bien ces institutions internationales qui sont là juste pour défendre la justice. Et au même moment, ces institutions sont en Afrique, mais malgré tout, rien ne change. Les Africains continuent de subir ces malheurs par ici, par là, par ces terroristes. Mais on voit qu'au fond, eux-mêmes, ils sont... Les organes primaires qui donnent la priorité à ces terroristes, parce que où passent par les armes, qui les financent, parce qu'ils sont là pour fonctionner, étant défendre le droit de l'homme ou autres, sécuriser, donner la stabilité sur le terrain. Et ils sont où? Par où passent ces armes? Ils connaissent. Et ces armes-là sont fabriquées par qui? Et comment ça se transiste? Donc tout ça là, je vois que derrière toutes ces choses-là, il y a les mains noires. Et en premier lieu aussi, on doit toujours tenir compte au coup à la France. La France est toujours derrière toutes ces choses-là aussi. Étant africain, moi, je pense que il faut que ces pays qui sont touchés à ça doivent bien s'organiser avec l'Union africaine pour juste chercher à eux-mêmes faire leur travail mieux. Pas des stratégies piteuses. Et non, espérer que les forces étrangères qui vont venir faire le boulot à leur place. Eux, ils ne sont pas là pour nous défendre du bon. C'est juste pour ce qu'ils pensent, c'est à leur intérêt. C'est ça, moi, j'ai à dire un peu, à donner comme commentaire pour ce soir.
Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Nous avons un auditeur, Eladj Siradjo. Bonsoir.
Pardon, la ligne est...
Eladj Siradjo, je ne sais pas si vous nous entendez. Nous avons eu deux auditeurs avant vous qui ont beaucoup de suspicions de la part des forces qui aident sur le terrain, le Niger. Quel est, vous, votre ressenti?
Vraiment, permettez-moi d'abord, pour commencer, m'incliner devant le défunt des victimes et présenter mes condoléances à l'endroit du peuple niger. Comment je disais auparavant que si les populations même s'impliquent et refusent cette idéologie, les djihadistes viennent avec des idéologies. Je vais vous expliquer leur idéologie. Donc, si vous ne faites pas attention, vous tombez dans leur idéologie, et vous-même, vous serez le coupable de mettre de vos compatriotes. Ce qui se passe, les djihadistes, là, ils n'ont aucun intérêt à voir des immigrants. Leur position est connue de tout le monde. Si nous, les populations, on refuse cette idéologie, on coordonne nos activités avec les forces de défense de sécurité, il y aura moins d'attaques. Ce qui s'est passé à Initialer, c'est tout à fait dommage. Il faut que les populations elles-mêmes veillent leur propre sécurité, alertent les services de sécurité au cas où il y a des attroupements qui ne sont pas du tout en réalité avec la situation du pays, alerter les gens et le faire de dépasser de cette situation.
Merci beaucoup, Eladj. C'est malheureusement la fin de l'émission. On aurait beaucoup aimé continuer avec vous. Vous pouvez réécouter l'émission sur le site www.voafrique. Un grand merci à Firmamax Koyaweda, la production. C'était Ekia Badou et vous avez rendez-vous dans quelques instants avec une nouvelle édition, Le Monde Aujourd'hui.